France Inter.
Bonjour à tous. C'est un jour sombre où l'Europe se résout à la soumission. François Bayrou sans détour. Au lendemain de l'accord sur les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis, quel gagnant, quel perdant. En France et parmi les 27, on voit tout ça dans un instant. Depuis le principal syndicat agricole jusqu'au porte-parole du gouvernement, un cadre de la FNSEA nommé directeur de cabinet aujourd'hui, alors que la pétition sur la loi Duplomb dépasse désormais les 2 millions de signatures. Les premiers camions humanitaires de retour depuis hier selon Israël dans la bande de Gaza. La politique, zéro écran dans un camp de vacances des Vosges, pas si facile. À seulement 10 ans de passer toute une semaine sans jeu vidéo et puis une préparation très à la cool pour une discipline hyper explosive. Le français Maxime Grosset nage dans moins d'une heure maintenant pour un titre de champion du monde sur 50 mètres papillon. C'est un deal qui va forcément avoir d'énormes conséquences. La présidente de l'Union européenne et le chef d'État américain Donald Trump finalement d'accord pour taxer les produits venus d'Europe à hauteur de 15% à l'entrée du marché états-unien. Pour décrypter, Maxime Debs du service économie de France Inter, Pierre Benazé aussi, correspondant à Bruxelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et l'impact au niveau de l'Union dans un instant. Mais d'abord, donc, l'inquiétude face à ces surtaxes en France, Maxime, et certains secteurs qui se font déjà plus de soucis que d'autres.
Oui, on a pu entendre ce matin sur notre antenne la Fédération des cosmétiques qui tient beaucoup par ses exportations, notamment vers les États-Unis. 15% de taxes, c'est 300 millions d'euros qui n'iront pas dans les caisses des entreprises du secteur. Celui de la beauté, des parfums, du maquillage, où 5000 emplois pourraient ainsi se trouver menacés selon leurs représentants. Quid également des produits pharmaceutiques, produits les plus exportés depuis l'Europe vers les États-Unis, quid aussi de l'automobile, à voir également comment le secteur du luxe réagira, comme LVMH qui réalise un quart de ses ventes aux États-Unis, même si le groupe de Bernard Arnault semble avoir anticipé, lui qui ne s'interdit pas de produire du Texas, en atteste l'annonce de l'ouverture d'un quatrième atelier Louis Vuitton du côté de Dallas la semaine dernière.
Et certains secteurs, Maxime, un en particulier, échappent toutefois à ces nouvelles taxes.
Oui, l'aéronautique, visiblement sauvée, exemptée de droits de douane. Bonne nouvelle pour Airbus et tout simplement pour la filière dans son ensemble qui exporte énormément, 14 milliards d'euros, dont près de 10 milliards pour la filière française aux États-Unis. Soulagement donc pour le secteur, alors que d'autres retiennent encore leur souffle, celui des spiritueux notamment, qui espéraient lui aussi un geste. Apparemment, le sujet n'est pas encore tranché. Les vignerons et négociants en cognac, armagnac et whisky français étaient encore ce matin dans un flou artistique, dans l'attente de précisions concernant.
Maxime Debs du service éco à France Inter. Une réunion doit se tenir dans deux jours maintenant à Bercy en présence des représentants des principaux secteurs économiques au niveau européen. On vous retrouve, Pierre Benazé. L'accord doit encore être ratifié état par état. Et là encore, tout le monde n'applaudit pas les efforts de négociation de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.
Disons que la réaction française très négative n'est pas isolée dans l'UE. Le seul à condamner aussi ouvertement que la France le résultat des négociations, c'est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Pour lui, je cite, Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. C'est la plus extrême des critiques. Mais du côté de ceux qui approuvent l'accord, on voit surtout des réactions par défaut. Pour l'italienne Giorgia Meloni, par exemple, ce qui est positif, c'est essentiellement d'éviter une escalade commerciale aux conséquences dévastatrices. Son de cloche identique du chancelier allemand, Friedrich Merz, même s'il se réjouit bien sûr que les droits de douane sur l'automobile soient réduits de 27,5% à 15%. Les plus optimistes en quelque sorte, c'est Finlande et Irlande qui se félicitent des perspectives de prévisibilité et de certitude. Mais celui qui reflète le mieux le sentiment général, c'est le ministre suédois du commerce. Pour lui, cet accord commercial est peut-être la moins mauvaise des solutions.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Inter. Autre point de cet accord, l'Europe s'engage par ailleurs à réaliser 750 milliards de dollars d'achats d'énergie afin de remplacer le gaz russe. Le chef de la diplomatie au Kremlin, Sergueï Lavrov, dénonce ce matin un accord qui porterait un coup très dur à l'industrie européenne. Les menaces de droits de douane à 30% brandies pendant des semaines par Donald Trump semblent bien, en tout cas, avoir pesé dans la balance jusqu'à ce que certains se félicitent d'une surtaxe à 15%, pourtant déjà très dangereuse sur le long terme. Analyse Jean-Luc Demarty, ancien directeur général du commerce extérieur à la Commission européenne.
L'Europe aurait pu s'en sortir beaucoup plus mal. Elle s'en sort relativement bien à court-moyen terme. Mais moi, je considère que c'est un désastre sur le plan géopolitique et sur le plan géoéconomique. Ça veut dire qu'on cède à la coercition et à l'extorsion de Trump. Ça nous affaiblit sur le plan international. À partir du moment où on accepte de se faire appliquer ce genre de coercition, pourquoi est-ce que les Chinois ne feraient pas la même chose, voire d'autres? Et sur le plan géoéconomique, ça veut dire que on laisse Trump redessiner unilatéralement les règles du commerce mondial contre, je dirais, nos intérêts.
L'ancien directeur général du commerce extérieur à la Commission européenne, Jean-Luc Demarty, avec Frédéric Saïs. Ils nous ont promis l'Europe puissance. Nous avons l'Europe de la capitulation, s'agace de son côté le président du Rassemblement national en France, Jordan Bardella. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et le chef du gouvernement n'est pas beaucoup plus tendre. François Bayrou regrette sur ses réseaux sociaux un jour sombre où l'Europe se résout à la soumission.
Oui, le Premier ministre change complètement le ton de la réaction gouvernementale française. Jusqu'à ce message, ses ministres répétaient partout le même élément de langage en parlant d'un accord déséquilibré, mais d'un accord qui avait le mérite d'apporter de la visibilité pour les entreprises, de la stabilité dans les relations transatlantiques, à l'image de Laurent Saint-Martin, ministre chargé du commerce extérieur sur France Inter ce matin. Il n'en est plus question de ce ton mesuré avec François Bayrou qui dénonce un accord von der Leyen-Trump pour insister sur la responsabilité personnelle de la présidente de la Commission européenne. Voir l'Europe se coucher, ce n'est pas supportable. Personne ne peut se dire que cet accord est bon, assure-t-on dans l'entourage du Premier ministre, où l'on souhaite rappeler par ailleurs que François Bayrou a toujours été un Européen fervent. Cette position du Premier ministre veut-elle dire que la France ne validera pas l'accord avec ses partenaires des 27 ? La réponse à cette question est plutôt à chercher du côté de l'Élysée et Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé pour le moment.
Timur Özturk, service politique de France Inter. L'accord est une honte, estime le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure. Un deal perdant pour le coprésident du mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann. La barre des 2 millions de signatures dépassée désormais sur la déjà historique pétition contre la loi Duplomb. À ce niveau-là, ce n'est plus un fait divers mais un fait de société, réagit aujourd'hui le haut-commissaire à la stratégie Clément Beaune, qui appelle à entendre les reculs et les menaces sur l'écologie, alors que l'on apprend, bonjour Lise Roseveille,
bonjour,
que l'un des cadres du syndicat FNSEA, très en faveur de ce texte agricole, quitte son poste pour rejoindre la porte-parole du gouvernement.
Oui, Xavier Jamet devient le nouveau directeur de cabinet de Sophie Primas, lui qui, ces trois dernières années, était directeur des affaires publiques à la FNSEA, chargé donc de porter les intérêts du principal syndicat agricole auprès des parlementaires et des ministères, un lobbyiste agricole. Un CV qui interroge alors que la contestation contre la loi Duplomb ne faiblit pas. La FNSEA a toujours poussé pour ce texte. Elle est même accusée d'avoir écrit des amendements entiers. Sophie Primas n'a pas choisi quelqu'un de la FNSEA. Elle a choisi un de ses proches en qui elle a confiance, justifie l'entourage de la porte-parole du gouvernement. Xavier Jamet était son collaborateur parlementaire pendant 10 ans au Sénat. Le ministère qui assure aussi que cette nomination est un pur hasard. Le processus était en cours depuis le mois de mai, bien avant la publication de la pétition. Xavier Jamet devra en tout cas déléguer tous les sujets agricoles, décision de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Et ça pourrait arriver très vite. La gauche compte surfer sur la contestation contre la loi Duplomb dès la rentrée.
Lise Roseveille, alors que le Conseil constitutionnel doit toujours se prononcer sur cette loi Duplomb dans le courant de la semaine prochaine, c'est ce qui avait été annoncé. Un gîte en flammes et un bilan déjà lourd. Ça se passe en Charente. Il y a des morts et des résidents toujours portés disparus. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
L'établissement accueille des personnes handicapées, 14 adultes âgés de 20 à 75 ans.
Ouais, ce que l'on sait à cette heure, c'est que 3 personnes sont mortes, parmi elles la propriétaire du gîte et une personne handicapée âgée de 60 ans. Un bilan qui devrait encore s'alourdir selon le secrétaire général de la préfecture, alors que 2 personnes sont encore portées disparues et que les chances de les retrouver vivantes sont minces. 4 autres personnes ont été hospitalisées, dont une en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé. On sait que 8 adultes handicapés, 4 encadrants et donc les 2 propriétaires étaient sur place au moment du drame, dans ce gîte qui avait reçu il y a 2 ans un avis favorable des services de l'État pour accueillir du public handicapé. Et tout était aux normes, précise encore le secrétaire général général. Les causes du départ de feu qui a ravagé 300 des 700 mètres carrés de cet ancien corps de ferme dès 4h30 ce matin sont encore à déterminer précisément. Le parquet a ouvert une enquête de flagrance du chef d'homicide involontaire ou blessure involontaire contre X.
Erwan Chassin, mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tous ceux touchés par ce drame, écrit sur le réseau X la ministre chargée du handicap Charlotte Parmentier-Lecocq. 4 personnes mises en examen, placées en détention provisoire, dont une suspectée d'avoir tué un homme d'une trentaine d'années il y a une dizaine de jours maintenant, au Havre, en Seine-Maritime. La victime était connue des services de police pour trafic de drogue.
France Inter, le journal de 13h. Sébastien Cabrita dos Santos.
Un dossier vieux de 80 ans à l'agenda des Nations Unies. 2 jours de conférence aujourd'hui et demain. Les ministres des Affaires étrangères, une quarantaine réunis aux États-Unis pour discuter d'une solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens dans la foulée de l'annonce d'une reconnaissance prochaine de la Palestine par Emmanuel Macron. Alors que sur place, Alice Moreno, Israël, sous pression internationale, annonce aujourd'hui l'entrée de 120 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza en proie à la famine. Ça, c'était pour hier et 180 sont encore attendus aujourd'hui.
Sur le terrain, la situation demeure chaotique, dangereuse, puisque les combats n'ont pas totalement cessé. Les scènes de cohue se sont multipliées aux abords du passage de Zikim, où des camions sont entrés hier, et des témoins assurent avoir entendu des tirs. D'après des habitants, des ONG, de nombreux camions ont été pillés avant que l'aide ne puisse être distribuée. Des pillages qui auraient aussi eu lieu aux abords du point de passage de Kerem Shalom sur des camions en provenance d'Égypte. Des largages ont également été effectués par des avions israéliens, jordaniens et émiriens. 25 tonnes d'aide humanitaire ont ainsi atterri sur les territoires de l'enclave. Certains habitants ont pu se partager ces vivres, mais cela demeure très insuffisant. Avant le 7 octobre 2023, entre 500 et 1000 camions chargés de vivres entraient chaque jour dans Gaza. De nombreuses ONG appellent à un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza et pas de simple pause tactique dans les combats, comme annoncé par Israël.
Alice Moreno pour Inter. La faim ne doit jamais être utilisée comme une arme de guerre, a encore lancé ce matin le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en référence au conflit en cours à Gaza, mais aussi en Afrique, au Soudan. Un nouveau mandat d'arrêt requis en France ce matin contre Bachar al-Assad, l'ancien président syrien, à nouveau dans le viseur du parquet national antiterroriste pour complicité de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques mortelles en 2013. La Cour de cassation avait annulé la semaine dernière un premier mandat d'arrêt qui visait l'ex-dirigeant, alors protégé par son immunité présidentielle. Un cessez-le-feu inconditionnel acté après 5 jours d'affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est le Premier ministre de la Malaisie où se déroulaient les discussions qu'il annonce ce matin. Il y a au moins 35 morts, 200 000 personnes ont été déplacées par les combats. Un millier de pompiers toujours mobilisés aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Le directeur du SDIS évoque ce matin une saison très intense. Le département toujours en alerte rouge, feu de forêt pour la 3e journée d'affilée. Même chose pour le Vaucluse, météo Sébastien Léas en fin de journal. Des vacances sans Netflix, sans YouTube, sans Insta et sans TikTok. Les colonies de vacances déconnectées cartonnent cet été. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télé, juste la bonne odeur des sapins des Vosges près de Saint-Dié et des nuits Thierry Collin beaucoup plus reposantes pour une cinquantaine d'enfants plus que biberonnés aux écrans.
Une semaine sans écran, ça fait du bien à Axel, 13 ans, dont les parents limitent la connexion à 6 heures par jour.
Je joue à des jeux, je regarde des vidéos. Ça fait du bien sans écran, ça me libère un petit peu.
Plus compliqué pour Pierre, 10 ans, déjà accro aux jeux vidéo.
J'ai envie de revoir ma console. Sans écran, c'est un peu compliqué pour moi.
Si je pagaie à gauche, je vais de quel côté ?
Okay. Zoé et Alice dorment beaucoup mieux.
D'habitude, on est tout le temps collé à notre téléphone, ça fait mal à la tête. Là, on respire et je m'endors plus vite.
Lilou, est-ce que t'as Apolline avec toi ?
Ah oui, elle est là.
Et les animateurs montrent l'exemple et ont troqué leur téléphone pour des talkie-walkie, une expérience pour Théo Matt et Lilou Karem.
Et surtout quand on a des moments de pause. En fait, moi j'ai tout le temps l'habitude de prendre mon téléphone.
Ça fait un peu peur quand des enfants de 6 ans, 7 ans nous disent « Ça fait une semaine que j'ai pas joué à ma Play, ça me manque et tout. »
La directrice, Marine Priard, est la seule à avoir son portable au fond de sa poche et elle donne des nouvelles aux parents tous les soirs par Internet.
Je mets un petit récapitulatif de la journée. Après, les parents mettent des commentaires. Les premiers jours, ça peut être un peu compliqué.
Et les commentaires des parents sur le blog de la colonie de vacances sont imprimés et distribués tous les matins aux 48 jeunes déconnectés.
Rendez-vous à 12h15 de l'autre côté pour le pique-nique.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Thierry Collin, ici Sud-Lorraine, ex-France Bleu, au centre de vacances UFCV de Saint-Rémy. C'est dans les Vosges. Lui est très, très, très en forme. Maxime Grousset participe d'ici trois quarts d'heure maintenant à la finale des championnats du monde du 50 mètres papillon à Singapour. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
En direct de l'Aquatic Center de Singapour, le nageur français, grand favori, bel et bien le plus impressionnant.
Oui, dans une finale où il va falloir montrer les muscles, Maxime Grousset sait le faire, ça, à l'image de son temps canon d'hier en demi, 22 secondes 61 pour avaler la longueur du bassin. Personne n'a fait mieux cette saison. C'est donc bien lui le patron en papillon, puisqu'il a également réalisé le mois dernier, lors des championnats de France, la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres. Le néo-calédonien de 26 ans est en pleine confiance au meilleur moment pour peut-être aller chercher son deuxième titre mondial après celui de 2023 au Japon. Même si autour de lui, vous vous en doutez, ses concurrents feront tout pour lui barrer la route. Et sur un 50 mètres, ça se joue souvent un tout petit détail, tant les écarts sont minimes. Dans une demi-heure maintenant, Maxime Grousset sera le dernier à rentrer sur l'aire de départ du bassin. Son casque sur les oreilles. Hier, il nous a confié qu'il avait écouté ce morceau avant de nager. Certainement que maintenant, au fond de lui, il a tout simplement très envie d'entendre la Marseillaise ici à Singapour.
Jérôme Val en direct pour Inter depuis Singapour. Merci à vous. Le début de la finale du 50 mètres papillon annoncé à 13h45. Le temps passe vite. La distance annoncée olympique pour la première fois au prochain jeu dans 3 ans à Los Angeles. Et puis une seule petite côte au programme pour cette troisième étape du Tour de France féminin. 163 km au programme. Ça part de la Gacilly. Direction Angers. La Mauricienne Kim Lecourt s'élance avec le maillot jaune. C'est une première pour une coureuse africaine, le temps.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
L'Est, encore sous les averses.
Oui, l'après-midi sera émaillé d'averses entre l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Et les averses seront encore plus actives sur le Mercantour et la montagne corse avec des risques d'orage. Les conditions sont un peu moins instables entre les Hauts-de-France, la Lorraine, le bassin parisien et l'Auvergne. Mais des averses peuvent aussi se développer localement sous les passages nuageux les plus épais. Des éclaircies arriveront quand même à se dessiner. Elles seront d'ailleurs plus belles dans les plaines du sud-ouest. Sur les plages entre la Vendée et les Landes et celles entre les Côtes d'Armor et le Boulonnais, le soleil va même s'imposer. Et puis l'après-midi sera également bien ensoleillé sur le Languedoc-Roussillon et la Provence. Mais prudence, Mistral et Tramontane sont violents, ce qui aggrave le risque feu, risque notamment très élevé sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Et puis depuis plus d'une semaine, le pays est dans une période plutôt fraîche. Cet après-midi, les maximales resteront sous les normales de saison avec 21 à 28 degrés. Prévoyez 23 degrés à Paris, 24 degrés à Lyon et à Lille ou encore 27 degrés à Bordeaux. Autour de la Méditerranée, il fera 26 à 31 degrés.
Sébastien Léas, Météo France, merci à vous.